Et vous écoutez France Culture. Toute femme, qu'elle le sache ou qu'elle l'ignore, est persuadée que sa vulve est le paradis. Jugée de ce qu'elle donne quand elle se donne et mesurer son sacrilège quand elle se vend. La femme a raison de croire tout cela et de prétendre tout cela. Elle a infiniment raison puisque cette partie de son corps a été le tabernacle du Dieu vivant et que nul ne peut assigner des bornes à la solidarité de ce confondant mystère. Léon Blois, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui fêtera ce soir dignement la fin de l'année 2018 en conviant deux grands sondeurs des mystères de l'âme et du sexe. Claude Chope, par qui le scandale arrive, il est en effet l'homme que la Providence a élu pour inscrire dans un corps identifié la vulve la plus célèbre de l'histoire de l'art, celle peinte par Courbet dans L'origine du monde, pas comptiellement également, barde des désamours amers, dont Sycamour Sycomore offre une méditation transhistorique et shakespearienne sur 2000 ans d'errance affective et d'amour morfondu. Alors bien bienvenue à l'Eden Club, bienvenue à Mauvais Genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Mauvais Genre pour la dernière émission de l'année 2018. On n'est pas tout à fait le jour du réveillon, mais on est quand même à la fin de l'année et on voulait d'une certaine façon réveillonner en votre compagnie et en notre compagnie. Bonsoir Claude Chope.
Bonsoir.
Bien longtemps qu'on ne vous a vu et vous revenez alors là pour un livre qui n'est pas consacré à Alexandre Dumas père, Alexandre Dumas fils ou à leur parentèle ou à leurs amis, mais alors une trouvaille extraordinaire. Vous avez identifié celle que tout le monde, bah, je ne veux pas dire désespéré de connaître, mais limité à cette partie stricte de son anatomie, donc oui, la femme vrai. De l'origine du monde.
Oui, mais je n'ai pas voulu. C'est voilà. Elle qui a voulu de moi.
Voilà, c'est une grande histoire d'amour qui n'est pas si qu'amour, mais on va en parler. Bonsoir Pacôme.
Bonsoir François.
Voilà, c'est bien de vous rassembler tous les deux, parce que c'est deux manières d'envisager l'amour, on peut le dire.
Peut le dire.
Pas tout à fait la même, mais je pense que ça peut résonner ensemble. Sixtine Aubert, bonsoir.
Bonsoir François.
Avec vous, de quoi va-t-on parler très
exactement ? Nous allons parler de la collection Censure et Cinéma avec son dernier numéro sur les vidéonasties, un sujet que Christophe connaît bien.
Absolument, qui est nôtre. Ah, mauvais genre, Fausto Fazulo, il est là.
Il est là, bonsoir François.
Et de quoi va-t-il causer ?
Eh bien, Fausto Fazulo va causer d'un livre d'entretien autour de Nobuyoshi Araki.
Qui doit aimer l'origine du monde.
Bah, là, je pense qu'effectivement, sans mauvais jeu de mots, on est en plein dedans.
On est en plein dedans, très bien. Et Céline Duchesnay, comment va-t-elle ?
Eh bien écoutez, je vais fort bien. Et alors moi, je vais plutôt aller du côté du Thanatos parce que je suis venue avec une somme tout à fait joyeuse et instructive qui s'appelle Macabre et qui est un traité illustré de la mort.
Ah oui, magnifique livre qui paraît chez Cernunnos, magnifique label, Christophe Birsa.
Ah oui, bien sûr, Cernunnos, hein, voilà. Oui.
Pourquoi est-ce un beau label, Cernunnos?
J'ai sorti un livre chez Cernunnos.
Ah voilà qui suffit à en faire un label exceptionnel.
Oui. Je salue d'ailleurs au passage mon éditeur.
Monsieur Donna, de quoi va-t-on parler?
Eh bien, nous allons parler de Bad Requin, l'histoire de la Sharksploitation, c'est-à-dire les films de requins.
Voilà, donc des films déchirants, des films lacérants,
oui.
Des films totalement... Mais est-ce qu'on apprendra, j'imagine, découvrir de nouveaux requins, puisque là, on peut dire que le vedettariat en termes de requins a été confisqué par un seul unique requin, mais là...
Mais oui, mais c'est les autres qui nous intéresseront ce soir.
Voilà. Le requin qui masquait la forêt, là.
Voilà, il y a une gueule qui masquait les autres ailerons. Merci Christophe Beer, merci à toutes et à tous d'être là ce soir pour le réveillon, allons-y, de Mauvais Genre.
Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi. Sur la plage. Non mais laissez-moi. Non mais laissez-moi. Manger ma banane. Non mais laissez-moi. Non mais laissez-moi. Manger ma banane. Non crever que de pas finir ma banane.
Philippe Catherine, choisi par Laurent Polleret, qui assume ce soir une playlist totalement en roue libre, subjective et dévastatrice. On commence avec vous, Claude Chope. L'origine du monde, VIVE du modèle. Donc le livre par qui le scandale arrive chez Phébus, puisque le monde entier, depuis tellement longtemps, fantasmait autour de ce tableau de Courbet, imaginant, chacun se l'appropriait, en rêvant, en fantasmant sur ce que pouvait être, ce qu'on ne voyait pas, c'est-à-dire le visage, la personnalité de cette personne, et grâce à vous et à cause de vous, c'est terminé. Fin
j'ai
des
honte.
Fantasmes, j'ai douche glacée.
Mis fin aux fantasmes.
Voilà. Alors, qui est-ce ? Dites-nous vite.
D'abord, je vais vous dire comment je.
Ah, bah oui,
je
comment l'avez-vous découverte ?
Je l'ai retrouvée sans le vouloir, puisque bien sagement comme je suis, vous le savez, même si j'appartiens quelquefois à mauvais gens, sagement, j'essayais d'annoter une correspondance, celle de...
Il faut dire que vous avez inventé une nouvelle forme d'érotisme, celui de la note de bas de page, qui chez vous est toujours une frénésie absolument quasi incantatoire.
Oui, mais interminable.
Mais interminable, mais très utile.
Donc, je voulais faire les notes de la correspondance entre Georges Sand et du Maffis, bien soigneusement, etc. Vous connaissez François,
tout à fait.
Je suis véritablement...
Avec de l'acribie, comme on dit.
Voilà. Et donc, tout d'un coup, j'ai découvert une phrase, plutôt un petit paragraphe. Est-ce que vous me permettez de le lire? Parce que ça...
Lisez.
Je vais lire. On va mieux le comprendre. « Courbé sans excuse, voilà pourquoi je suis tombé dessus. » Quand on a son talent qui, sans être exceptionnel, est remarquable et intéressant, on n'a pas le droit d'être aussi orgueilleux, aussi insolent et aussi lâche. Sans compter qu'on ne peint pas de son pinceau le plus délicat et le plus sonore l'interview, lisais-je, de Mademoiselle Queniaud de l'Opéra pour le Turc qui s'y hébergeait de temps en temps, le tout de grandeur naturelle.
Voilà, donc ça suffit à mettre fin.
Ça, pour moi, qui suis moyennement cultivé, je me suis dit, ça ne peut être le Turc. Bon, je sais que Courbet, le Turc, Khalil Bey, a commandé un tableau à Courbet. Et ce tableau, c'est l'origine du monde. Je me suis dit, mais Dieu sait, c'est ça. C'est ça, et pendant 10 minutes, j'ai été comme sonné. Je me suis dit, je ne cherchais pas, j'ai pas le droit d'avoir trouvé, puisque je ne cherchais pas. Il y a une espèce de méritocratie chez moi qui a fait que, j'étais longtemps avant de me dire, c'est vraiment elle. Alors, à partir de ce moment-là, le chemin était tout tracé. Mademoiselle Queniaud de l'Opéra, elle un prénom, un nom, une fonction, et donc essayer d'aller dans toutes les archives possibles pour la reconstituer, si j'ose dire.
C'est surtout le terme d'interview qui vous choquait dans la lecture.
J'allais le dire.
Qui m'a choqué, mais je savais qu'il s'agissait quand même de Khalil Bey. Mais effectivement, et là, puisque je travaillais sur une copie dactylographiée, et je me suis dit, interview, mais qu'est-ce que ça veut dire interview? Ça n'a aucun sens ici. Et... Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ça ne peut pas être interview. Alors, c'est quoi? Alors, c'est intermédiaire, interopérette, inter... Donc, j'ai fait toute la liste des mots. Et tout d'un coup, je me suis dit, non, intérieur, bien sûr, c'est intérieur. J'ai fait Oreca, bien entendu, c'était intérieur. Et donc, j'ai été vérifié sur le manuscrit à l'EBN. Et là, c'était vraiment pas interview, c'était intérieur. Interview était absurde, puisque les interviews n'existaient pas encore en 60.
Bah, une image à imaginer, qu'est-ce que ça veut dire d'aller visiter de temps en temps une interview, quoi. De se rendre de temps en temps dans une interview, ça semble bizarre.
Très, très étrange.
Céline?
Ce qu'on peut dire, c'est que du coup, vous avez mené, à partir de cette phrase bizarre, vous avez mené une véritable enquête. Et alors, vos outils, ce sont les archives, les revues de presse. Donc, expliquez-nous un petit peu comment est-ce que vous avez réussi, à partir de ce simple nom de famille, donc Queniaud, à trouver le visage de cette dame.
Oui, alors, Queniaud d'abord, il y a tout un cheminement, oui, effectivement, un peu étrange. Le premier cheminement, ça a été Internet. J'ai frappé sur Internet, et là je suis tombé sur quoi? Sur un catalogue de peinture, un catalogue de vente de Mademoiselle Queniaud. Mademoiselle Queniaud avait donc une collection, et cette collection, après sa mort, était mise en vente. Alors évidemment, c'était très intéressant pour moi parce que ça me donnait la date 1908, la date de sa mort. Alors à partir de la date de sa mort, on peut aller dans les archives de Paris pour retrouver l'acte de décès de Constantin. Alors, bien sûr, il y a 20 arrondissements, il faut faire les 20 arrondissements pour essayer de le retrouver. Je me suis dit, elle semble avoir des biens, donc elle est dans un beau quartier. Donc ça m'a évité de faire les 20. Je suis allé dans le 8e et là ça a fonctionné puisque j'ai trouvé. Alors là, avec l'acte de décès, j'avais quoi ? J'avais l'acte de naissance. Et là, qu'est-ce que j'ai vu dans l'acte de naissance ? C'est que sa mère, c'était une fille naturelle, comme beaucoup de femmes des milieux très modestes, et sa mère signait avec une croix. Ça montrer un départ dans la misère de cette femme. Et donc, à partir de là, il fallait continuer dans les recherches. Bon, la recherche suivante, puisque j'avais déjà des tas d'éléments, ça a été d'aller aux archives nationales et à la bibliothèque de l'Opéra, où là, j'ai trouvé des photographies et le petit dossier administratif la concernant. Bon, et ensuite...
Est-ce qu'elle était danseuse, demi-mondaine?
Danseuse, demi-mondaine, c'était dit par là. Donc, ça a été une recherche normale.
Une recherche normale, mais quand même, là, la fin du...
Mais avec beaucoup de plaisir.
Sixtine.
Et est-ce qu'on pourrait dire que, plutôt qu'une préservation de l'anonymat du modèle, on aurait peut-être ici une espèce d'apparition de l'envers d'une peinture bienséante et la révélation, finalement, de la réduction pendant des années de cette femme à son sexe serait la vérité d'un art fétichiste qui cacherait l'histoire féminine de ce modèle?
Oui, enfin, moi, ce qui m'a beaucoup plu, et je me suis aperçu petit à petit de ça, c'est que c'était un objet, c'était une femme objet, c'était un objet de plaisir, d'érotisme, et j'en faisais un sujet, et ça me plaisait beaucoup. Elle pouvait agir, elle était... Alors que j'avais un petit peu des a priori contre, bon, une prostituée, je suis d'une banalité lamentable, et là, tout d'un coup, une espèce d'admiration, je me suis dit... Qu'avait-elle, née à Saint-Quentin, dans un milieu extrêmement ouvrier, comment pouvait-elle s'en sortir? Il y avait son corps, et elle a agi d'une façon, dans le fond, logique et intelligente. Elle n'est plus victime, elle est devenue quelqu'un. Et vraiment, c'est ce quelqu'un que son dernier appartement montre, par exemple.
Christophe, oui, les dernières années de sa vie, après la période opéra, danse, puis la période courtisane, il y a la troisième vie de Mademoiselle Kenyo qui est celle de dame patronesse de bonnes œuvres. Et vous hochez la tête, le terme est un peu...
Oui, c'est
parce
un
que
peu
vous,
dur.
Vous l'employez.
Hein, je préférerais philanthropie.
Philanthropie, oui, d'accord. Mais pour me racheter, je dirais que ce qui m'a passionné dans cette dernière partie, c'est ce que vous nous montrez d'elle, c'est le portrait d'une femme d'une grande discrétion. Et c'est là où votre livre devient un peu vertigineux, puisque... Nous connaissons le sexe depuis des années et des années d'une femme discrète, qui a été d'une discrétion absolue, qui a tout fait en définitive pour faire oublier la courtisane qu'elle a été et qui lui a permis cette ascension sociale.
Mais sans jamais se renier.
Non,
renier son milieu d'ailleurs.
Mais elle a toujours eu des liens avec ses anciennes camarades de danse ou des demi-mondaines, j'imagine, mais les dernières années de sa vie ont dû être des années où elle ne faisait pas étalage de sa richesse, c'est ce que vous dites. Hein. Donc il y a là quelque chose de dérangeant, en fait, de tout d'un coup découvrir que la femme qui est l'origine du monde de Courbet est cette Mademoiselle Kenyo qui, à 78 ans, en s'éteignant, a été au bout d'une démarche, d'une sorte de discrétion.
Oui, c'est vrai, c'est étrange. Vraiment, une discrétion étrange de sa part.
Ça en fait un personnage de roman, c'est-à-dire que ça en fait le personnage de votre livre. Elle devient... Vous l'appropriez c'est quelque chose de très romanesque, je trouve.
Oui, mais j'ai absolument refusé le roman.
Non, non, heureusement. Heureusement.
J'étais dans les faits. Je voulais rester dans les faits. C'était.
Défendez-vous, monsieur Schoen.
Je n'avançais que appuyé sur des faits.
C'est la meilleure façon de nous ouvrir l'imaginaire.
Céline, pour conclure.
Et c'est pour ça que je parlais d'enquête, mais pour juste rebondir sur ce que dit Christophe, c'est vrai que cette demoiselle Kenyo, c'est l'anti-nana de Zola par excellence, parce qu'on a l'image de la courtisane, de la haute biche, avec cette femme donc incarnée par Nana qui meurt de la petite vérole à 18 ans, donc qui meurt à cause de sa beauté et par son sexe. Et là, nous avons l'incarnation de quelqu'un qui est passé par l'opéra, qui est passé par cette figure de la danseuse, qui est quand même la haute figure de l'érotisme, et qui traverse comme ça son temps, tout en distribuant de l'argent autour d'elle, tout en étant un modèle en effet de discrétion, alors qu'elle est l'incarnation de l'image une des images les plus sulfureuses de la peinture française.
Oui. Claude Chop, L'origine du monde, vie du modèle, c'est aux éditions Phébus.
Deixando meu coração tristonho, enciumado, morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo que ela mora no meu peito
e eu moro vizinho a ela.
Que eu fico desse jeito,
pensando nos beijos, nos carinhos dela.
Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela.
Pacôme Thielman, Sycomore, Sycamore au PUF. Alors là, on est dans une perspective différente, puisqu'il y a pas de, il y a une œuvre de départ, mais qui n'est pas une toile, mais qui est une œuvre qui est celle de Shakespeare. Il y a trois univers qui sont convoqués pour essayer de cerner ce que peut être le Sycamore, l'œuvre de Shakespeare, celle de Jacques Rivette et celle de David Lynch. Donc trois univers assez différents les uns des autres, deux cinéastes et puis bon Shakespeare qui est un monde total, avec cette notion du sycamore qui est l'amour malade. Alors ça me fait penser à ce vers d'Apollinaire, automne malade et adoré. C'est vraiment le livre d'un univers malade et adoré, l'adoration malade.
Alors, ce qui les réunit, bien sûr, c'est le sycamore, mais c'est aussi l'arbre du sycomore. C'est pour ça, sycomore, sycamore. On trouve, en fait, le même arbre apparaissant dans le théâtre de Shakespeare, dans le film de Rivette, dans le film de Lynch, pour indiquer la présence du sycamore. Et c'est cet amour qui est un amour, c'est comme ça que Roméo le définit, en tout cas, lorsqu'il parle de Roselyne, sa première amoureuse dans Roméo et Juliette, c'est pour elle qu'il erre dans le cercle des sycomores. C'est pas si c'est de l'amour ou de la haine, il sait pas si c'est un amour si puissant qui se transforme en haine, une haine si puissante qu'elle est en réalité de l'amour, il sait pas exactement ce qui fait que ça marche pas. En fait, c'est un amour qui fonctionne pas, ils arrivent pas à savoir pourquoi. Mais en même temps, le fait de tourner autour de cet amour, tourner dans cette maladie d'amour, les amène à traverser les mondes. C'est-à-dire que c'est l'arbre du sycomore aussi comme dans l'Égypte ancienne. C'est-à-dire l'arbre du sycomore, comme le lieu de passage, le lieu où les fantômes reviennent, où on traverse le monde des morts, mais aussi les morts reviennent chez nous. Et donc c'est pour ça, c'est dans n'importe quelle histoire d'amour, il y a un peu de sycamore. Le sycamore est juste une histoire d'amour poussée à son extrême d'intensité sur cette branche-là, qui est celle où les fantômes reviennent, où les morts reviennent, où grosso modo la personne avec qui vous êtes vous rappelle toutes les autres personnes du monde, où les personnages de fiction s'invitent. Enfin, c'est ces amours extrêmement chargés. Et Shakespeare était choisi aussi pour là, c'est le point de comparaison avec Monsieur Chop, dont j'ai beaucoup aimé le livre. Hein. Je tiens à dire quand même que c'est vraiment un livre magnifique, hein, L'origine du monde, vie du modèle. Vraiment, ça m'a énormément touché. C'est que c'est aussi devenu une enquête, à un moment, mon livre, sur une femme.
Voilà.
Qui est la Dark Lady des sonnets de Shakespeare. D'ailleurs, si Shakespeare a écrit ses sonnets sur une femme, qui est une femme donc sombre, dark, pour évidemment la couleur des cheveux, le teint mat de la peau et tout ça, mais aussi pour la personnalité. La personnalité très sombre, c'est aussi la personnalité qu'on retrouve dans ces pièces. Et donc, du coup, tous les shakespeariologues sont un peu posés la question de savoir qui y avait derrière ce personnage. Et au lieu d'en faire un personnage, enfin, il y a un shakespeariologue qui a eu, à mon avis, l'intuition, enfin, moi, c'est celle qui m'intéresse le plus, l'hypothèse la plus forte, la plus grandiose, c'est que ce soit une poétesse elle-même. C'est qu'en fait, si Shakespeare est tombé amoureux d'une femme aussi, de façon aussi puissante, ça pouvait être que son égale. Ça pouvait pas être juste un visage croisé comme ça. C'était la poétesse, la première poétesse de langue anglaise, Emilia Lanier. Emilia Lanier née Bassano. Et donc, c'est devenu un moment aussi une enquête sur Emilia Lanier et l'occasion de montrer aussi quelques-uns, de traduire comme j'ai pu, hein, quelques-uns des poèmes de son recueil. Je fais un message à chaque fois que j'ai l'occasion. Éditeur, écoutez ma prière, publiez le recueil d'Emilia Lanier, Salve Deus Rex Judeorum, le premier texte d'une poétesse de langue anglaise et qui est aussi une sorte d'essai de texte proto-féministe, une défense d'Ève.
Céline Duchesnay, une défense d'Ève.
On peut dire aussi, alors vous parlez de trois univers, François, mais y a 3, 4, 5, 10, 15 univers qui traversent le livre de Pacôme. Et ce qui est extrêmement appréciable aussi, c'est à nouveau de se retrouver dans l'érudition de Pacôme, mais de prendre toujours ses chemins de travers, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'histoire officielle. Enfin, on connaît l'histoire officielle. Par exemple, l'histoire officielle en termes d'amour, c'est Adam et Ève. Et alors vous, ce qui vous intéresse, c'est pas de partir d'Adam et Ève, mais c'est de partir de ces fameux récits qu'on peut appeler gnostiques et que vous appelez les récits des 100 rois. Et à partir de c'est l'origine finalement, avant même Shakespeare, l'origine de votre récit part de ces textes-là. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que cette version qu'on a d'Adam et Ève a complètement influencé notre manière de vivre l'amour et le chagrin amoureux ?
Ah oui, vaste histoire, hein.
Mais oui,
vous avez 30 secondes.
Mais c'est quand même le début de tout. C'est le début de tout et c'est ce dont on ne se défera jamais finalement.
Exactement. En fait, grosso modo, ce qui m'intéressait aussi, c'est l'histoire des amoureux, c'est prendre les premiers amoureux. Les premiers amoureux, les premiers lovers on the run, c'est Adam et Ève. C'est prendre Adam et Ève comme vraiment des espèces de deux figures. Je les ai pris quasiment comme des figures romantiques, quoi. C'est genre, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a été le bordel, la merde, tout ça? En effet, il y a la Genèse. C'est la Genèse qui a été conservée, la Genèse officielle.
Officielle.
On peut dire. Et il y a des Genèses alternatives qu'ont proposé les 100 rois. Les 100 rois, ceux que j'appelle les 100 rois, parce que Jésus les appelait les 100 rois, ceux que les chrétiens ont appelés les gnostiques, que vous connaissez sous le nom des gnostiques. C'est donc les formes alternatives du christianisme. Après Jésus, au moment où, grosso modo, le christianisme s'est constitué, il y avait plein de groupes à côté qui avaient des visions différentes du christianisme, et en particulier des sortes de visions, on pourrait dire, anarchistes, ou en tout cas émancipatrices, folles, subversives. Et ce qui faisait aussi, non seulement ils avaient leurs propres évangiles, comme l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie, etc., ils avaient aussi leur genèse alternative. Ils avaient leur genèse. Et dans leur genèse, c'est pas les mêmes Adam et Ève. C'est pas exactement la même histoire qui est racontée. C'est pas la même raison pour laquelle ils sont condamnés. Ils sont pas condamnés parce qu'ils ont fait une faute. Ils sont condamnés parce que Dieu est jaloux. Et là, ça change tout. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir s'il y a du mal en nous. La question est de savoir si l'amour qu'on peut éprouver l'un pour l'autre dérange quelque chose et donc met le monde en danger, met la société en danger, met l'histoire en danger. Et donc, du coup, si on passe de ce Adam et Ève-là, c'est Adam et Ève qui, grosso modo, dérange l'ordre du monde imposé par Dieu à ce moment-là. Un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu chez les gnostiques, puisque c'est une espèce de Dieu imposteur, le démiurge. La véritable divinité, elle, est toujours du côté à la fois des réprouvés, des exilés, des errants et des rebelles, quoi. Et on fait un saut et on va au XVIe siècle. On a Shakespeare et cette poétesse, Emilia Lanier, qui est-elle? Quelle est sa vie? Quel est son monde? Quel est son univers? Pourquoi est-ce que ça pose tant de problèmes? Et pourquoi, du coup, le théâtre de Shakespeare va être revu comme une sorte de méditation sur cette figure et l'impossibilité qu'il y a eu entre eux de réussir à s'aimer et de aussi qu'on puisse lui rendre justice. C'est-à-dire c'est comme une réprouvée dedans. Si on regarde qui est Emilia Lanier, on se rend compte qu'elle est la fille d'un musicien vénitien juif de la cour de Elisabeth, grosso modo, elle était la maîtresse d'un espèce de protecteur qui était le protecteur du théâtre Shakespeare, Lord Chamberlain Houston, qui avait 50 ans plus qu'elle. Elle a eu un enfant de lui qu'elle a dû cacher en épousant, grosso modo, à faire un mariage de convenance avec son cousin, Monsieur Lanier. Et en gros, elle a une espèce de vie très étrange qu'on retrouve par petits morceaux, mais surtout qu'on peut explorer à travers toutes les figures que prennent la relation entre le poète et elle, à travers toutes les figures des amoureux dans le théâtre de Shakespeare.
Paco Mtielman, Sycomore, Sycamour, donc après Constance Kenyo, Emilia Lanier, les belles inconnues ce soir, de mauvais genre.
Mais comment peux-tu venir me raconter n'importe quoi? Hein? 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 Tu es noir des pieds à la tête, comme moi. Alors comment as-tu pu mettre au monde un enfant blanc et qu'il soit de moi? Agatha, tu crois que je suis complètement fou, hein? Écoute, tu as bien le droit de me verser encore un peu de vin de palme et non pas de me mentir. Non, 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 non. Ton enfant, ça fait plus d'un mois qu'il est né. Et il n'a toujours pas décidé de prendre la couleur locale. Et toi, tu soutiens que c'est mon fils, ça?
Agatha, ne me mens pas, ce n'est pas mon fils. Tu le sais bien, ce n'est pas mon fils. Tu le vois bien, ce n'est pas mon fils. Même si c'est le tien.
Ah, verse-moi à voir. Ça au moins c'est une bonne affaire. Oui, 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 oui.
Voilà, et pendant que Claude Choc compare Sixtine à Marlène Dietrich, Fausto Fazulo s'est préparé pour parler d'Araki. Alors Araki, justement, Sixtine, on avait fait une émission au Musée Guimet.
Oui, et on a aussi rencontré téléphoniquement néanmoins Aizen Kaguya qui pratiquait, elle, la suspension artistique.
Shibari.
Le Shibari.
Voilà, donc ça n'est pas un inconnu à mauvais genre. Alors, est-ce qu'on peut articuler Araki avec le monde du Sycamore et avec l'origine du monde, j'allais dire, de Claude Chope de Courbet?
Mais complètement, François.
Ah, quel merveilleux homme vous êtes.
Complètement, puisque effectivement, toute la carrière de Araki s'articule autour de l'amour fou, autour du portrait, autour du nu. Ce qui est très intéressant, c'est que pour lui, la véritable nudité est justement le portrait. Et il n'a jamais fouillé autant dans l'intimité de ses modèles que quand il a photographié uniquement leur visage. Ce qui est très intéressant en fait dans ce livre, c'est que déjà il recueille la parole d'un artiste qui est extrêmement précieux, et c'est très très rare d'avoir la possibilité justement d'aller à la rencontre d'artistes japonais en langue française. Et je tiens à saluer dans un premier temps le travail de l'Atelier Akatombo, qui est un nouvel éditeur, donc.
Alors, l'Atelier Akatombo, donc, précisons que c'est Dominique Sylvain.
Et Franck Sylvain,
donc, qui ont ouvert cette nouvelle maison d'édition entièrement vouée au Japon, où il y a de la science-fiction, où il y a de polar.
Exactement.
Et dont on parlera, mauvais genre, en 2019.
Exactement. Il y avait eu précédemment un livre du Georges Simenon japonais, Seicho Matsumoto, Le Point Zéro. Et puis là, c'est vrai qu'ils nous surprennent avec ce livre d'entretien, qui s'appelle « Leçon de photo intégrale ». Et ce qui est vraiment saisissant, en fait, c'est qu'on a l'impression de connaître quasiment parfaitement, en fait, Nobuyoshi Araki une fois qu'on ferme le livre. Le livre est découpé de manière chronologique, c'est-à-dire qu'on remonte à ses débuts photographiques. Enfin, on remonte à son enfance et surtout, on remonte à la manière dont il a créé lui-même ses dispositifs. Il y a un passage qui est passionnant dans le livre, c'est quand il explique en fait comment lui est venu l'art du cadrage. En fait, l'art du cadrage lui est venu lorsqu'il a tenté de photographier son père sur son lit de mort, où en fait, il s'est refusé de cadrer son visage, puisque son visage ne ressemblait pas à celui qu'il a toujours connu. Et là, il s'est posé une question morale. Cette question morale, c'est faut-il faire une photo avec laquelle je ne serais pas à l'aise par la suite et qui aurait mis mal à l'aise, en fait, le modèle en lui-même? Et je pense que ça, c'est quelque chose qui sous-tend vraiment toute son œuvre. Aussi extrêmes peuvent être certaines de ses photos.
Une photo qui le met mal à l'aise, qui met mal à l'aise le modèle.
Donc, exactement. Alors après, là, en l'occurrence...
Malaise généralisé.
Exactement. Et c'est vrai que c'est une question qui est doublement pertinente, dans le sens où c'est un photographe qui a souvent basculé dans le côté extrême, si je puis dire, mais en aucun cas ces modèles n'ont été malmenés ou moralement abîmés justement par son dispositif. Donc c'est quelqu'un qui, en dépit du souffre qui l'inspire, a toujours gardé cette espèce de recul pudique. Et c'est vrai que quand on pense à Araki et quand on pense à pudeur, souvent on pense que ce sont deux notions qui sont très opposées, alors que pas du tout.
Claude Schoep, on n'a aucun renseignement sur la confection de cette œuvre dont vous avez révélé le modèle, mais est-ce qu'on peut évoquer une thématique équivalente, c'est-à-dire, j'imagine, Constance Quéniaud, peinte de cette partie de son anatomie, peinte et posant, Courbet faisant le tableau, que, là aussi, on est dans une sorte de situation extrêmement bizarre. Est-ce que le commanditaire de l'œuvre était là? Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Je pense que le commanditaire appartenait à la catégorie des voyeurs. Je pense qu'il préférait voir et d'où cette toile-là et l'autre toile aussi qui s'appelle Les Deux Cousines ou Le Sommeil, où on voit deux femmes enlacées, se passant d'hommes, comme dit ouais. Alexandre dit ma fils. Donc je crois qu'effectivement on a un curieux sentiment de femme qui vit des hommes mais qui aime les femmes. Mais ça, c'est très difficile de montrer véritablement. Et il y a, à côté, l'érotisme de Khalil Bey, sans doute syphilitique, pardon, et donc qui jouit essentiellement du regard qu'il porte sur ce corps.
Fausto.
Oui, et puis dans le livre d'entretien, il y a une dimension qui est extrêmement jouissive, c'est la roublardise de Nobuyoshi Araki. Un exemple, il évoque, quand il revient sur ses premières photos, parce que le livre compile plus de 300 photos qui sont toutes commentées, il évoque l'influence du néo-réalisme italien, donc il parle de Rome ville ouverte, il parle de Rossellini, il parle du voleur de bicyclette, et puis quelques paragraphes plus tard, il dit « non mais en fait, j'ai vu qu'un seul film du néo-réalisme italien, j'ai simplement vu le voleur de bicyclette, j'avais juste cité les références d'avant pour me faire mousser un peu plus et avoir l'air d'être plus cultivé. » Et puis ensuite, un peu plus tard, il évoque l'influence d'Antonioni en disant qu'il voulait être Antonioni. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que on se retrouve face à une personnalité qui est évidemment volcanique, mais qui est aussi très drôle et qui aime de temps en temps déjouer, on va dire, certaines attentes critiques et qui, s'amuse un petit peu avec la grille de lecture qu'on pourrait lui apposer.
Ce qui est étonnant, justement, en faisant le parallèle avec l'origine du monde, c'est que on dirait presque que la photo d'Araki où il attache son modèle traduit finalement ce regard qu'on peut porter sur un corps de femme et qui est ce regard justement morcelant et fétichisant qui érotise le corps en le découpant et en le maintenant dans des poses extatiques. On sait qu'il y a une vraie mystique en plus du Kinbaku, donc oui, c'est très intéressant de faire le parallèle, je pense, entre ces deux œuvres.
Fausto ?
Extase, c'est un mot très juste, en fait, quand on évoque Araki, et il l'évoque lui-même, et pour lui, l'extase, assez étonnamment, elle réside dans les photographies des femmes de plus de 40 ans qu'il a fait, en photographiant uniquement leur visage. Il parle des fameuses marcheuses de Ginza, donc des femmes de plus de 40 ans qui vont faire leur shopping dans ce quartier extrêmement chic de Tokyo. Et quand il photographie, donc je reviens là-dessus, uniquement leur visage, il insiste sur le fait qu'il a la sensation de pénétrer littéralement quelque chose et que ça lui provoque un sentiment d'extase.
Autre recommandation ?
Et une autre recommandation pour rester sur
rapidement.
Le Japon, c'est un manga qui s'appelle ouais. Blame. Blame, c'est un manga de Tsutomu Nihei, et Tsutomu Nihei sera mis à l'honneur au Festival d'Angoulême. Voilà. Il y aura une très grande exposition. Donc si vous aimez la science-fiction, le cyberpunk japonais, vous pouvez acheter cette réédition de Blame chez Glénat.
Mauvais Jean sera bien évidemment de passage au Festival d'Angoulême fin janvier, en compagnie d'Antoine Guillot et de Laurent Polleret. Nous ferons notre descente habituelle et nous parlerons de Corben, de Futuropolis et de ce donc dessinateur de manga dont on vient de parler. We'll be right back.
On continue non plus avec Eros, qui nous occupe beaucoup depuis le début de ce dernier Mauvais Genre de l'année 2018, mais avec sa grande amie Thanatos, avec un livre magnifique publié chez Cernunnos.
Encore une fois, chez Cernunnos.
Alors, le livre s'appelle tout simplement Macabre.
Macabre, un traité illustré de la mort. Donc, vous avez 400 pages consacrées à la mort, environ 1000 illustrations.
Alors, on peut dire quelques mots sur la dame qui est à l'origine de tout cela. Parce
évidemment.
Qu'après Constance Quenio, Emilia Lagnier, voilà.
Voilà une dame qui s'appelle Johanna
Ebenstein, troisième.
Voilà, qui est donc la fondatrice d'une académie un peu particulière qui s'appelle la Morbide Academy, qui a été créée en 2007. Alors au début, c'était un simple blog, et puis après, elle a commencé à faire des collections de livres, d'œuvres d'art. Ça a été un petit musée pendant un moment donné. Et aujourd'hui, c'est plutôt des conférences, des visites et des expositions qu'elle organise.
Alors le musée était à Brooklyn, il faut rappeler que c'est un...
Mais ça a fermé.
Ça a fermé, hélas.
Mes dernières sources. Et donc, vous avez aussi le résultat qui est ce livre qui s'appelle Macabre. Alors, Morbide Academy, comme son nom l'indique, milite pourquoi ? Pour réhabiliter la mort, la célébrer et évidemment pour mieux l'appréhender parce que cette chère Johanna Ebenstein a en détestation tous ceux qui cachent la mort, qui la jugent détestable ou pire, elle a en détestation les gens qui oublient qu'ils sont mortels. Alors elle a cette phrase, mon espoir, c'est que cet ouvrage soit un premier pas rédempteur afin de ramener un tant soit peu la mort dans notre monde.
Alors disons que c'est la version française d'un ouvrage paru en Angleterre,
voilà,
chez Thames Hudson.
Et traduit. Donc évidemment, quand vous allez feuilleter le livre, on voit tout de suite que le pari est gagné, parce qu'il y a des morts absolument partout, des squelettes, des faucheuses, des momies, des écorchés, des trophées, des crânes, le grand guignol, une photo de Sarah Bernhardt dans son cercueil, bien évidemment, et j'en passe, donc tout ce qu'on aime. Alors moi j'ai retenu, il a bien fallu choisir, hein, j'avais l'embarras du choix, mais il y avait notamment un article qui est très très joli, qui s'appelle « Les amusements ayant la mort pour thème », donc toujours de cette fameuse Johanna Ebenstein, qui fait revivre le tout premier parc d'attractions Coney Island à New York, qui a été créé en 1880. Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait donc un nombre incroyable de divertissements immersifs. Qui était basé sur de récentes catastrophes naturelles, donc des séismes, des éruptions volcaniques, des inondations. Et il y avait aussi une attraction qui s'appelait Nuit et Matin. Donc c'est une attraction qui a été créée en 1907. Et les spectateurs, donc vous allez le voir, le lien avec Macabre, pouvaient avoir un avant-goût de leur propre enterrement. Donc ils étaient enterrés vivants, tout simplement, dans un grand cercueil. Il y avait une sorte de couvercle de verre qui était placé au-dessus de leur tête et un fossoyeur qui jetait de la terre sur ce grand couvercle de verre. Après, avec un petit système d'effets spéciaux, le cercueil descendait dans un trou. Et là, il y avait un squelette qui vous adressait un discours solennel en vous disant que, évidemment, vous deviez laisser là absolument tout espoir. Vous pouviez visiter le fleuve Styx. Vous aviez une vision des tourments, des damnés qui, évidemment, grillaient dans un feu infâme. Et des squelettes qui chantaient dans une autre salle et qui venaient après serrer la main des spectateurs. Et puis, évidemment, à la fin, la résurrection dans un grand cimetière avec des orages, des éclairs. Il y a des morceaux d'orgue au loin. Mais alors, le paradoxe de tout ça, c'est que le parc a été détruit en partie en 1911 à cause d'un incendie. Et pour la petite histoire, c'est quand même assez rigolo, si on peut dire. Ça a démarré dans une attraction apocalyptique qui s'appelait Les Portes de l'Enfer. Donc, c'est pour ça que nous avons plus cette extraordinaire nuit et matin attraction où vous pouviez vivre votre propre enterrement, vivant bien sûr.
Claude Chop.
Non, mais on retrouve effectivement tout ce qu'on avait au Moyen-Âge, à la Renaissance. C'était
avec les danses macabres.
Les grandes danses macabres, les peintures de Pise, etc. Il y a véritablement... Il y avait un assez, c'est notre siècle.
C'est un livre magnifique parce que il présente bien la quasi-totalité des comportements possibles de l'homme par rapport à la mort. C'est-à-dire le mimétisme, c'est-à-dire l'horreur, la conjuration par l'imaginaire, le folklore, le comportement religieux, le comportement scientifique et analytique. Alors il y a notamment, ça m'intéresse beaucoup, comme vous connaissez mon imaginaire, des Christ en croix. Mais qui sont en définitive des écorchés anatomiques.
Ah oui.
Parce que très longtemps, on s'est posé la question, qu'a souffert le Christ ? Alors, qu'a souffert le Christ dans son corps ?
Donc, on a testé, on a crucifié des morts pour observer la manière dont les muscles se tendaient, se distordaient, dont les poumons étaient compressés, dont le poids du corps jouait dans la position de la crucifixion. Et là, il y a à la fois un Christ de laboratoire, ça existe, qui montre, qui tente de montrer les souffrances en cire, les souffrances du Christ, et un autre personnage qui est un condamné à mort anglais qui a été crucifié et dont on a observé la torsion musculaire, et là c'est montré. C'est un livre vraiment extraordinaire de thanatophanie, on pourrait dire. Je veux dire, c'est la grande fête des morts, mais, pas comme tiennent.
Non, mais est-ce qu'on peut demander ça, par exemple,
comme cadeau, bah oui.
Aux États-Unis, où on est condamné à mort, est-ce qu'on peut demander une condamnation à mort par crucifixion? C'est très étrange, c'est légal de crucifier quelqu'un?
Ah, bah, ça, alors là, oui. Monsieur Bill. C'est un catholique, ce condamné à mort.
Ah ça, je ne sais pas. Je crois c'est l'anglicanisme est une religion chrétienne, donc effectivement la question se.
Mais ce qui est triste aussi, c'est la disparition des corbillards dans les villes. Il n'y a plus de corbillards, il n'y a plus de processions, parce qu'on a voulu effectivement, comme dit l'auteur de ce livre, on a voulu laver nos vies de toute trace de mort. On devrait aussi revenir aux grandes tentures noires qu'on voyait jadis sur les
portes
des
églises avec des larmes d'argent.
Oui.
Revenir la reine Victoria à 40 ans de deuil, Christophe.
Il faut que la mort se revitalise dans nos sociétés, qu'on puisse l'apprivoiser à nouveau.
Alors je me tourne vers Pacôme, puisqu'à un moment, vous évoquez en parlant du sycamore, l'objet donc de votre dernier livre,
sycamore,
au PUF.
Avec un T.
Le sycamore, le sycomore, sycamore. Un amour au parfum, si je veux dire. Un amour aux senteurs de crypte. Oui. Un amour qui sent la mort. L'amour entre les humains depuis les origines est frappé. Donc d'une malédiction, et le tombeau en est peut-être le tabernacle élu.
Alors ça c'est le Roméo Juliette. Oui, c'est dans mon livre. C'est moins le sycamore que c'est l'autre amour qui est décrit, qui est celui de Roméo Juliette, et qui est l'amour pour le tombeau. En fait, derrière la passion amoureuse, il y a aussi la passion pour la mort. Et c'est quelque chose qui traverse de Roméo Juliette, qui va jusqu'à Kleist, jusqu'à Edgar Poe, tout ça. Quelque chose qu'on va connaître beaucoup chez Poe et chez Kleist, et bien au-delà, mais qui est la recherche de la mort à travers l'amour, l'amour jusque dans la mort. Mais ça, c'est un tout petit peu différent du sycamore, mais je ne veux pas faire mon chiant. Donc, j'en parle aussi, mais sur sa passion.
Edgar Poe, dont d'ailleurs on reparlera l'an prochain, dans les gens, puisque 1809 date de naissance, 1949 date de mort. 2019 est une année Edgar Poe, donc comptez sur nous.
Cool.
Il y aura du Edgar Poe à l'affiche.
Nina Simone pour Mauvais Jean, by Laurent Polleret ce soir pour notre dernière émission de l'année. Alors après le sic, comment sic? Sic, c'est sic. Le sic, c'est là, ce qui est sic, c'est ce qui
c'est
est.
C'est malade,
c'est
sick.
Ça.
Sic amour, c'est sic amour. Amour malade.
Alors après le sic, voilà le nasty avec vous, oui, Sixtine. Alors ça veut dire quoi, nasty?
Nasty, bah, peut-être que Christophe aura une traduction sous le...
Dégueulasse, ouais, sordide, ouais, les vidéocrades, vidéo dégueulasse.
Les vidéocrades, alors effectivement, vidéo nasty.
Oui, en fait, je vais vous parler plutôt de la collection dans son entier. Donc, une collection qui s'appelle Censure et Cinéma et qui est sortie aux éditions Leitmotiv et qui en arrive de fait à son quatrième numéro qui est intitulé Vidéo Nasties. Et pour aborder donc les merveilleux titres qui composent la collection, il faut d'abord, à mon avis, insister sur la particularité du projet, explorer les liens entre censure et cinéma. Une particularité qui tient donc à son créateur, Christophe Triolet. À l'origine, il y a une fascination adolescente, hein, un destin bien mauvais genre, un jeune homme représentatif de toute une génération, pris d'une pulsion scopique pour un cinéma déviant. Il y a le désir impérieux pour ce qu'on n'a pas le droit de voir, en fait. Et une fois l'émerveillement passé, c'est la libido scandi qui prend le pas et le jeune homme, le jeune bisseux, s'appuie sur son expérience professionnelle, celle de juriste, pour interroger cette attirance qu'on lui décrit comme coupable et pour mieux cerner la parole autoritaire. Qu'est-ce qu'on censure? Au nom de quoi est-ce qu'on le censure? Et quelle est la portée en amont et en aval d'un tel acte? On sait que la censure est exercée par l'autorité de manière à, entre guillemets, protéger ceux considérés comme des mineurs, hein, là, la jeunesse en l'occurrence, mais c'est vrai que par le passé, ça a été les femmes et aussi les classes laborieuses de manière plus générale. Les protéger donc et les préserver au nom d'une certaine morale. Et donc, en vérité, plutôt que de restreindre véritablement la liberté de ces mineurs, il s'agit de former la jeunesse et reproduire un individu exemplaire qui ne mette pas en péril sa propre vision du monde. Et à partir de là, la fiction devient un terrain de lutte idéologique, d'où les angoisses notamment qui nous semblent un peu absurdes sur les problèmes de contamination du réel par la fiction. Et par la suite, tout va se cristalliser dans le geste le plus démonstratif possible, le plus sacrilège qui tendra à renverser ce rapport de force, d'où les grands thèmes qui cristallise les angoisses du surmoi social et qui, sans surprise, sont les deux premiers volumes de la collection Censure et Cinéma. D'abord, gore et violence, d'une part, et sexe et déviance, d'autre part. Et si on considère que le dialogue entre les censeurs et ceux en quête de liberté s'articule autour d'une question, disons, de frustration et de surenchère, on pourrait dire, et non sans provocation, que ce sont les curés qui définissent le canon du cinéma bis. Ouais, bah. Et donc un canon qui est de fait presque circonscrit.
Heureux curés, merci les curés d'avoir créé le cinéma bis.
Et un canon qui est presque circonscrit de fait à ces 72 titres des vidéos interdites qui sont devenus célèbres lors de la panique morale en Grande-Bretagne sous la dénomination de vidéo nasties, un phénomène sur lequel revient donc amplement le dernier numéro de la collection, avec un parti pris assez amusant, c'est-à-dire qu'en plus d'une narration minutieuse de l'épisode historique, on y retrouve des articles de l'époque, des textes, des facsimilés de textes de loi, et la description minutieuse aussi des organes de censure, des procédures employées, et un ensemble de 72 fiches sur les 72
alors,
vidéos
en question. Quel type de film?
Eh ben, de toute façon, les Rape and Revenge, la Nazi Exploitation.
Films de cannibales.
Des films de cannibales, beaucoup de films de cannibales.
Monsieur Beer,
je ne sais plus, il n'y a pas un Ilsa qui a
si,
été...
Si, bien sûr, mais du film Nazi
Exploitation. C'était l'époque aussi
SS Experiment Camp,
on était en plein dans le boom de la vidéo aussi.
C'est ça,
Et donc...
Et donc la circulation non contrôlée à cause
des... Il y avait parfois
des
films sortis déjà depuis quelques années qui tombaient sous cette interdiction parce qu'ils sortaient en vidéo en Grande-Bretagne.
Et donc, c'est quelques fiches réunies permettent...
Il y a la maison
de
derrière la gauche aussi.
Oui, la dernière maison sur la gauche. Oui.
Quel éditeur?
Leitmotiv, c'est le frère de Monsieur Genet, il me semble.
Très bien, écoutez, tous les renseignements sur notre site.
On termine avec le maître Beer, comme d'habitude, dévorez-les tous. Dieu reconnaîtra les siens, monsieur Beer.
Oui, là, c'est un livre chez Huguin et Munin.
Autre très bonne maison.
Oui, qui ont sorti trois livres sur le cinéma d'exploitation. Il y a un livre sur les parodies X, un autre sur l'enfer vert de la Rambosploitation. Ce troisième ouvrage, qui est le plus luxueux des trois, Bas de requin, histoire de la sharksploitation. Et pour faire le lien avec les vidéos nasties, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans ce livre sur la sharksploitation. Ce n'est pas l'origine que nous connaissons tous, Steven Spielberg, mais le moment où les requins envahissent littéralement les écrans, ou plus exactement les petits écrans de nos télévisions, avec la fin des années 90, quand la vidéo est encore vivante, et surtout, année 2000, les direct-to-video et les films qui sont fabriqués directement pour le câble. Ça m'a passionné parce que c'est une histoire que je connais très mal, ce n'est pas ma cinéphilie. Et simplement, ce sont quand même des films que j'ai pu découvrir parfois lorsque je suis en déplacement et que je suis à l'hôtel à minuit, 1h du matin, démuni. Que faire ?
Que faire ? Priez ! Priez,
alors,
monsieur Bill.
Alors, je aller boire un verre au bar, mais qui est fermé, ou bien je n'ai plus soif, je regarde... J'allume la télécommande.
Vous ouvrez votre...
Je suis sur une chaîne de télévision dont j'ignore totalement l'existence et je vois tout d'un coup un requin qui surgit ou alors des militaires qui ont des discours insipides sur le réchauffement climatique et qui pensent qu'il faut utiliser l'arme nucléaire pour exploser ce requin gigantesque numérique. Alors ça, c'est pour moi, c'est assez fascinant parce que je ne savais rien sur tous ces films qui s'appellent le Sharknado, Shark Attack, Mega Shark versus Octopus, des choses très très étranges pour moi. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que les auteurs Claude Gaillard et son équipe, Fred Pizzorato, qui fait un texte fabuleux sur... Parce qu'il semble donc que cet auteur a vu tous ces films-là. Il n'y a aucun film à sauver. Quand on s'intéressait au cinéma bis, on avait des auteurs, des artisans. En France, on a applaudi Mario Bava. Quand on s'intéresse à la PRC, c'est-à-dire au plus bas des studios de production de série B américaine, il y avait Edgar Ulmer avec Détour. Il y avait quelque chose qui nous attirait et qui nous emportait. Là, nous sommes dans une espèce de décadence cinéphilique où il n'y a plus rien. Ou à la rigueur, on dit « Ah, Shark Attack 2 est un peu meilleur
». Oui, c'est ça.
Alors, c'est assez dramatique. Il y a une espèce de d'ivresse du néant. Et en fait, ça me fait penser à la musique d'ascenseur.
Vous savez, cinéma d'ascenseur.
Il existe une musique d'ascenseur. Eh bien, je crois qu'avec les Sharksploitation, nous avons découvert un cinéma de chambre d'hôtel. Et ce que je souhaiterais maintenant, c'est suggérer à Huguin et Munin de sortir un livre sur les snakesploitation. Et là, la question est très sérieuse, parce que je me demande pourquoi, en revanche, j'ai un peu plus de plaisir à regarder des films de serpents que des films de requins. Est-ce qu'il y a... Pourquoi peut-on m'expliquer pourquoi les films de serpents sont mieux faits, mieux réussis, plus excitants que les films de requins? Est-ce qu'il y a vraiment une explication, alors que les scénarios sont exactement identiques, on a les mêmes acteurs, les mêmes effets numériques relativement minables, on a la même surenchère tératologique, parce que les derniers films, c'est cataclysmique. C'est des requins gigantesques issus de la préhistoire à cause du dégel climatique, à cause du dégel des pôles, et tout d'un coup, ces bêtes ressurgissent du néant et combattent d'autres monstres. On est un peu comme dans le cinéma japonais avec Godzilla et Mechagodzilla, des choses assez hallucinantes, mais qui ne... qui ne nous laisse toujours que dans un état de léthargie. C'est ça qui est étonnant.
Une réponse,
je me demandais si le fait d'être avalé par un serpent n'est pas quand même un peu plus sexy que d'être déchiqueté par un requin.
Je ne sais pas. Oui, c'est possible. Moi, je suis un fan absolu de Anaconda, qui n'est pas un film sur le plan budgétaire minable.
Mais est-ce que c'est un fantasme production.
Peut-être, oui, mais le serpent. Bah tiens, on va faire un rapport avec Sycamore, avec le serpent d'Adam et Ève. C'est formidable, l'émission fait.
Bien sûr, very good, Snake. Non, mais les serpents sont très beaux, c'est pour ça aussi, c'est une beauté plastique. Oui, le requin est juste inquiétant, mais une fois qu'on a enlevé le truc inquiétant, on ne peut pas rentrer dans un érotique du requin.
Merci à toutes et à tous. Ainsi s'achève sur cette vision totalement tératologique, apocalyptique, eschatologique du serpent des origines et du requin géant dévoreur du monde. Mauvais genre, le dernier de l'année 2018. Merci à Claude Chop et à Paco Mtielman d'en avoir été les invités. Je rappelle les livres évoqués ce soir. L'origine du monde, vie du modèle, c'est chez Phébus, Sycomore, Sycamour, Paco Mtielman. C'est au PUF. Leçon de photo intégrale d'Araki, c'est donc l'atelier Akatombo Blame, donc c'est aux éditions Glénat. Macabre, traité illustré de la mort, c'est chez Cernunnos, très bonne maison. Vidéo Nasty, censure et cinéma, c'est aux éditions Leitmotiv. Et puis, last but not the least, comme on dit en autrichien, Alexis Prévost, Claude Gaillard et Fred Pizzo-Ferrato. Bad requin, l'histoire de la Sharksploitation, c'est aux éditions...
Sharktopus versus Terracuda.
Merci, Monsieur Beer. Toute l'équipe de Mauvais Genre vous souhaite une excellente fin d'année, un très bon réveillon. Laurent Polleret, Valérie Lavalard, Seam Boutata, Claire Martin-Lugard, Céline Duchesnay, Sixtine Audebert, Christophe Beer, Fausto Fazulo et François Angelier vous remercient de nous avoir écoutés. On se retrouve l'an prochain, on se retrouve la semaine prochaine. Nous serons avec Hervé Lecor pour un thriller historique qui se passe pendant la Commune. Tiens, la Commune, c'est pas ce moment de l'histoire de France où Courbet a commis l'irréparable.
L'irréparable.
Voilà, en faisant quoi ? En faisant tomber la colonne. Vendôme, merci et bonne nuit à tous.